Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Bondel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, on va parler littérature avec notre monsieur livre à nous, Nicolas Caro. Vous retrouverez évidemment, en ordre alphabétique, tiens, Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences télé.
Présente.
Bruno Donnet pour ses télescopages, il n'est pas là. Marc-Antoine Lebré et ses stories, il va arriver. Sans oublier le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Notre info média va se pencher sur le sort des journalistes d'investigation qui payent de leur vie leurs enquêtes. 42 morts cette année et elle n'est pas terminée l'année. Auparavant, ces meurtres se passaient loin, au Mexique ou en Russie. Désormais, c'est à l'intérieur même de l'Union européenne, notamment en Slovaquie, où la mafia italienne s'est invitée jusqu'au sommet du pouvoir et ça fait froid dans le dos. Puis nos invités, Valérie Damido, la reine de la déco, n'a plus d'émission de déco, mais elle reste pourtant l'incarnation du genre. Et la presse ne s'y est pas trompée. Avec Reworld Media et après beaucoup d'autres animateurs, elle lance son magazine papier. Ça s'appelle Dami Déco et elle assume à fond. Dès l'édito, elle s'adresse directement aux maroufleurs. Enfin, la chanteuse Clara Luciani, après son album sorti en juin, déjà disque de platine, Cœur, elle se lance en 2022 dans une tournée des Zéniths et autres salles géantes. Quasiment tout est complet, ce qui ne l'avait pas empêché de composer une chanson qui dit le contraire, mais c'était pendant le confinement. Vous allez l'entendre avec le recul, c'est savoureux. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Elle est présente, elle est là, Louise Bernard, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au premier rang, au sommaire de votre
mais
journal
oui,
des médias.
Mais oui, j'ai eu un réflexe d'école encore.
Mais tellement.
Au sommaire, TF1 qui adapte un jeu musical américain déjanté, Molotov qui est condamné à payer 7 millions d'euros à M6, la radio à 100 ans et on va le fêter avec un documentaire qui permet de revenir sur les meilleurs moments de ce siècle. Et puis enfin, trois séries françaises saluées par le New York Times, excusez du peu.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé la fiction de France 3, Le Voyageur, dont je vous parlais hier, 4 760 000 téléspectateurs, 21,1 part d'audience. Alors il y avait un enjeu puisque c'était le nouvel acteur, le départ d'Éric Cantona, exactement, remplacé par... Oui, c'est ça, remplacé, on va dire, par Bruno de Brandt. Alors, c'est moins bien que ce que faisait Cantona avant, mais ça reste un très, très haut score, surtout quand on a Koh-Lanta en face, qui marche aussi très bien et qui retrouve des couleurs sur TF1. 4 350 000 téléspectateurs, 21,2% de part d'audience devant TF1 hier soir. Et puis, troisième, France 2, Pearl Harbor. Le documentaire a attiré 2 440 000 téléspectateurs, 10,9% de part d'audience. Notez que sur M6, c'est un gros flop pour la série L'homme que j'ai condamné. 1 million de téléspectateurs seulement, 5,2% de part d'audience. M6 qui est battu par le documentaire de France 5 sur le sucre.
Culture Média.
À la une du journal des médias, un nouveau programme bientôt sur TF1, l'adaptation de la nouvelle émission de l'américain Jimmy Fallon.
Oui, la chaîne vient d'acheter les droits de That's My Jam pour en faire une version française. Alors Jimmy Fallon, c'est l'un des animateurs les plus célèbres et les plus populaires aux États-Unis, connu pour son Tonight Show sur NBC. Début janvier, il va donc bientôt lancer ce nouveau divertissement aux États-Unis, un jeu musical déjanté, et TF1 sera la première chaîne dans le monde à l'adapter. C'est Le Figaro qui dévoile l'information et qui détaille le principe du jeu. Deux équipes de deux personnalités qui s'affrontent lors d'épreuves musicales, comme des karaokés, des blind tests. Revisité, hein, sinon ça fait un peu classique, avec beaucoup d'humour. Par exemple, une des épreuves consiste à chanter les paroles d'une chanson, mais sur l'air d'un autre titre. Par exemple, vous devez chanter du Claude François sur l'air de Madonna, Like a Virgin.
Ah, c'est drôle.
Ou alors chanter une chanson d'amour, mais en proposant une version rock ou country. Ou faire deviner encore de quelle chanson il s'agit, mais en la jouant avec un instrument de musique improbable. TF1 va donc travailler directement avec les équipes de Jimmy Fallon pour développer cette adaptation française. Ce seront probablement des prime Time qui seront tournés en janvier en France et mises à l'antenne dans les mois qui suivront, toujours d'après Le Figaro. Et le choix de Jimmy Fallon français ou de la Jimmy Fallon française n'est pas encore arrêté.
Dans l'actualité des médias également moins joyeux, la plateforme Molotov devra verser 7 millions d'euros à M6.
Oui, elle a désormais interdiction de diffuser les chaînes du groupe M6, W9 et Sister. Cela fait suite à une décision de justice, une sanction pour contrefaçon et parasitisme révélée par le journal Le Parisien. Molotov, c'est une application française qui permet de regarder des chaînes tonnes de télés gratuitement sur smartphone, ordinateur ou sur les télés connectées. La plateforme continuait de diffuser gratuitement les chaînes du groupe M6 alors que le contrat qui les liait avait expiré depuis fin mars 2018. Or, les opérateurs télécoms comme Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR et puis Canal+ aussi payent, eux, pour diffuser ces chaînes. Une autre décision de justice est attendue en 2022 pour la même problématique, mais cette fois entre TF1 et Molotov.
Notre focus programme du jour, la radio a 100 ans cette année, vous l'avez dit Louise, et Paris Première a décidé de les fêter, ces 100 ans, avec un documentaire diffusé ce soir.
Oui, ce média qui accompagne chaque jour des millions d'auditeurs, dont vous qui nous écoutez ce matin, peut-être depuis votre voiture ou en vous brossant les dents, voilà, merci.
Ou les deux, en se brossant les dents dans la voiture.
Plus compliqué, à l'heure où elle est moins écoutée cette radio quand même. Une belle piqûre de rappel de la puissance de ce média qui a offert et offre toujours des beaux moments aux oreilles des Français depuis un siècle, hein, des moments de proximité, de confidence, d'interviews cultes, d'histoire avec un grand H aussi. Les plus marquants sont retracés dans ce documentaire d'une heure et demie qui est basé sur le livre de Daniel Moreau, Les enfants de la radio, avec Laurent Boyer et Jean-Marie Pasquier. Ils ont travaillé pendant 2 ans, interviewé de nombreuses animatrices et animateurs, tous des amoureux de la radio, ça se voit hein, à l'étincelle qu'il y a dans leurs yeux quand ils en parlent, à commencer par l'un des auteurs du documentaire, Laurent Boyer.
C'est vrai qu'on aime tous la radio, quoi. C'est un média incroyable. On vient tous de la radio, grosso modo. Hein. Même s'ils font de la télé maintenant, c'est des grands animateurs de télé. C'est d'abord des grands animateurs de radio et des passionnés de radio. Et on l'est tous. Donc pour moi, c'était une façon de rendre hommage à la radio, enfin à ce média que j'aime tant. Et puis j'ai rencontré tellement de gens et c'est un média que j'ai tellement écouté, que j'écoute toujours. Donc là, j'ai fait une grande partie de ma carrière et j'y suis toujours. Ça fait 40 ans que je fais de la radio. Donc voilà, c'est l'amour de la radio qui m'a fait faire ce deux.
Alors comment on raconte cet amour de la radio, 100 ans de radio en une heure et demie? Mais il a fallu faire des choix. Alors pas celui de raconter de manière chronologique, c'est judicieux, plutôt par thème.
Des coups de loupe sur l'éditorialiste, sur les journalistes politiques, le 6-9, le 12h, le 7-18. On a trouvé des charnières en fait, ce sont les charnières des grandes périodes de la radio. Hein. Ça a été très compliqué de trouver la ligne éditoriale et de pouvoir en faire 90 minutes. Parce que j'étais parti sur 2 fois 90. Il a fallu réduire, il y a tellement de matériel, il a fallu faire des choix et des coupes qui sont drastiques. C'est enfin moi qui me fend le cœur la plupart du temps. Aussi.
En tout cas, il y a une heure et demie passionnante à découvrir ce soir. Laurent Boyer co-signe ce documentaire avec Daniel Moreau et Jean-Marie Pasquier. C'est diffusé à 23h sur Paris Première où c'est déjà disponible sur la plateforme de replay Sisplay Paris Première.
Et donc pas sur Molotov. Non. Et on termine avec une bonne nouvelle pour la création française. Plusieurs séries françaises figurent dans le classement des meilleures séries internationales de 2021. Classement établi par le New York Times.
Elles sont 3 jolies performances dans un classement de 10 séries. 3 dont 2 créations de France Télévisions. Laetitia, l'adaptation du livre d'Yvan Jablanka sur le meurtre de Laetitia Perret. Adaptation bouleversante d'après le New York Times. Et puis... décidément encensé par les Américains. La série a reçu il y a quelques jours le prestigieux International Emmy Awards de la meilleure comédie. Là, le critique du New York Times salue l'équilibre parfait de cette comédie mélodramatique. Et puis, la troisième, c'est une création de Canal+. Tu peux avoir des frissons rien qu'en entendant ce générique. Engrenage, qualifié de meilleure série criminelle qui ne se déroule pas à New York, Baltimore ou Birmingham. Complexe, émouvante et authentique.
Merci beaucoup Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. Vous serez présente.
À demain.
Dans un instant sur Europe, notre info média du jour. Des journalistes assassinés à l'intérieur même de l'Union européenne. C'est le sujet de 2 enquêtes diffusées dimanche soir sur France 5 dans Le Monde d'en face. On va notamment partir en Slovaquie. On recevra dans quelques minutes Camille Le Pomelec, réalisateur de Slovaquie, Les fiancés assassinés. Et Sandrine Rigaud, rédactrice en chef de Forbidden Stories. On vous dira ce qu'est Forbidden Stories. Là aussi, c'est passionnant. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
42 journalistes tués en 2021 dans l'exercice de leurs fonctions. Alors que l'année s'achève, les chiffres de Reporters sans frontières sont terrifiants. Auparavant, on entendait parler de ces assassinats au Mexique, en Russie ou en Inde, alors que ces exécutions ne sont pas perpétrées seulement à l'autre bout du monde, mais désormais également à l'intérieur même de nos frontières européennes, notre Europe des 27. C'est le sujet de 2 enquêtes diffusées ce dimanche soir sur France 5, dans Le Monde en face, le titre « Mafia au cœur de l'Europe ». Bonjour Camille Le Pomelec.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur du documentaire documentaire Slovaquie, les fiancés assassinés qui va passer ce dimanche à 21h sur France 5. Sandrine Rigaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef de Forbidden Stories qui produit ces documentaires. D'abord, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est Forbidden Stories ?
Oui, alors Forbidden Stories, c'est un réseau international de journalistes d'investigation qui a été créé il y a 4 ans par Laurent Richard, un journaliste français, et dont le but en fait est de poursuivre le travail des journalistes qui sont menacés dans le monde, ou arrêtés, ou assassinés. Et l'idée de Laurent Richard, quand il a créé Forbidden Stories, c'était de dire, quand un journaliste est assassiné ou s'il est menacé, c'est son histoire qu'on veut censurer. Donc pour lutter contre cette censure, il faut absolument pouvoir travailler et prolonger ses enquêtes et ses histoires. Et donc la première enquête de Forbidden Stories, coordonnée par Laurent Richard, c'était une enquête sur Daphne Caruana Galizia, une journaliste qui a été assassinée à Malte. Le film diffusé dimanche soir parlera de cette enquête collaborative qui a réuni 45 journalistes pour poursuivre le travail de Daphné.
Justement, ce qui frappe, c'est que ces histoires sont récentes, 2017-2018, elles se passent sur le sol européen et on a l'impression qu'on en parle très très peu, moins que ce qui se passe, je dis ça aussi pour nous, je bats ma coulpe, on ne dit pas, il y a des morts en Union européenne pour du journalisme. Comment expliquez-vous ceci ?
Oui, c'est difficile à imaginer. Ça se passe, les histoires que nous racontons, l'histoire de Jan Kuciak, un journaliste slovaque, l'histoire de Daphne Caruana Galizia, ce sont des meurtres de journalistes dans l'Union européenne, dans des pays qui sont membres de l'Union européenne, il y a quelques années à peine. On parle de 2017 et 2018, donc c'était hier, et c'était des journalistes qui enquêtaient sur la collusion entre les hommes politiques, mais aussi les oligarques et les réseaux criminels. Et ils pouvaient montrer que la corruption, enfin leurs enquêtes montraient que la corruption pouvait toucher le plus haut niveau du pouvoir politique.
Alors on va se concentrer sur l'une des deux enquêtes, celle que vous avez réalisée, Camille Le Pomelec. Elle s'intitule « Slovaquie, les fiancés assassinés ». Elle raconte l'histoire de Jan Kuciak, journaliste d'investigation. Il a été assassiné le 26 février 2018 à son domicile avec sa compagne Martina. Il n'a que 27 ans. Camille Le Pomelec, d'abord, qui était Jan Kuciak? Comment on pouvait le situer?
Alors Jan Kuciak, c'est un jeune journaliste slovaque qui... était encore d'ailleurs à la fac, il finissait une thèse. Et donc sa spécialité, c'était le journalisme de données, le data journalisme, c'est-à-dire aller chercher dans des sources ouvertes, sur Internet, quand on cible par exemple un homme politique dont on pense ou dont on a des indices qu'il est corrompu, on va aller voir qu'est-ce qu'il détient comme entreprise, quels contrats il a fait. Et c'est donc sur ces sources ouvertes qui travaillait en priorité.
C'est absolument passionnant puisque la source est ouverte et par définition la mafia est secrète. Comment il arrive à partir d'une source ouverte et déboucher sur la mafia italienne dans son pays, la Slovaquie, je le rappelle?
Ça c'est une grosse enquête collaborative. C'était la dernière sur laquelle il travaillait. Et justement, en fait, il y avait eu des papiers un petit peu dans la presse à scandale sur des liens entre une conseillère du Premier ministre slovaque de l'époque, donc entre cette conseillère et son ancien petit ami, qui était un homme d'affaires italien établi en Slovaquie et dont il y avait plusieurs indices qu'il était lié à la mafia, italienne, la 'Ndrangheta. Et donc il a travaillé en fait sur tout ce que... en fait, il y a une transparence de l'administration, j'ai découvert ça en Slovaquie, qui est même plus importante qu'en France. C'est-à-dire qu'on va sur Internet et on peut obtenir plus d'informations sur les sociétés, les propriétés détenues par les uns et les autres. Et c'est comme ça qu'il a pu montrer que cette conseillère du Premier ministre était en lien d'affaires avec cet homme d'affaires italien mafieux.
Parce qu'on le rappelle, sur le papier, la Slovaquie, c'est un pays, tout ce qu'il y a de démocratique, qui fait partie de l'Europe des 27, dont les représentants siègent à Bruxelles et à Strasbourg. Alors, avec ces enquêtes, Jan Kuciak va subir les pressions du monde des affaires, en particulier de cet homme d'affaires, Marianne Kochner. Que découvre-t-il sur cet homme, en deux mots?
Marianne Kochner, il découvre, donc c'est un ancien journaliste, Marianne Kochner, qui a fait fortune dans un peu l'immobilier et un peu les coûts, c'est-à-dire qu'il va racheter plusieurs entreprises, se les revendre à lui-même pour faire des coûts fiscaux, et en fait, à partir de la fin de l'année... de la fin de l'année 2016, début 2017, il va enquêter sur cet homme d'affaires qui est un peu croquignolesque, mais qui est aussi assez menaçant.
Menaçant, le mot est faible. Il n'hésite pas, justement, Kochner, à menacer Jan très personnellement. Vous diffusez dans votre enquête un échange téléphonique entre les deux hommes. On va entendre un extrait. Je précise que c'est sous-titré, dans le documentaire. Donc nous avons doublé les voix documents.
Votre travail est agressif envers moi. Alors je vous le demande, qu'est-ce que ça vous fait si j'ai vendu ou acheté quelque chose?
Pardon ?
C'est moi qui parle. Alors la ferme. Je suis convaincu que quelqu'un vous a embauché, que quelqu'un vous paie, même si je ne peux pas encore le prouver.
Ce n'est pas vrai, je suis journaliste. Personne ne me dit quoi écrire. C'est moi qui choisis mes sujets.
Monsieur Kusiak, vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes un petit stylo qui pisse sur commande.
Camille Pomelec, c'est cet homme qui a commandité la mort de Jan Kusiak ?
Alors, pour l'instant, la justice slovaque n'a pas répondu à cette question, ou plutôt elle a acquitté en première instance Marianne Kouchner pour défaut de preuve. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu compliqué, mais il y a un commando de tueurs qui ont été reconnus coupables de l'assassinat de Jan Kusiak, deux hommes, qui eux-mêmes ont reçu. Enfin, ce meurtre a été commandité par un intermédiaire, puis une autre intermédiaire, puis. Ce qui est soupçonné par qui était accusé, c'était Marianne Kouchner, qui pour ça était acquittée, parce que pour l'instant, ce que la justice slovaque a pu trouver contre lui, c'est des échanges sur SMS pour parler de quelque chose qui pourrait s'apparenter à cette commande de meurtre. Mais comme c'est des émoticônes, voilà, ça n'a pas été repris par la justice
voilà,
pour l'instant.
Et on le voit dans votre documentaire, on voit les familles qui quittent le procès quand elles apprennent ceci, elles sont totalement dépitées. Sandrine Rigaud, est-ce que ce sont principalement des histoires d'argent qui entraînent les assassinats de journalistes à travers le monde ?
Il y a des histoires d'argent, ça concerne souvent des enquêtes sur les réseaux criminels, sur le pouvoir politique. On le voit avec Jan Kuciak, mais Daphne Caruana Galizia, elle aussi travaillait sur les hommes politiques à Malte. Malte est une île qui est gangrénée par la corruption et Daphne Caruana Galizia tenait un blog qui était plus lu que tous les quotidiens de l'île réunie. Et donc elle dénonçait ces collusions, elle dénonçait quelquefois avec virulence la corruption et les pratiques des hommes politiques de Malte. Et donc le film que réalise Jules Giroda, qui est diffusé dimanche, raconte à la fois qui était Daphne Caruana Galizia, mais raconte aussi le combat de ses trois fils après sa mort. Trois fils qui se battent depuis sa mort pour lui rendre justice et pour découvrir la vérité. Et ils ont été rejoints par 45 journalistes.
D'un mot, le titre pour lequel écrivait Jan Kuciak, ce n'était pas une feuille de chou underground. C'était le titre le plus lu en Slovaquie.
Exactement. C'est un portail d'actualité sur Internet, Actuality, qui est le portail le plus lu en Slovaquie.
Ce meurtre en Slovaquie a généré une prise de conscience dans la population, des manifestations énormes. On vous raconte ça juste après ceci. On marque une courte pause.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Slovaquie, les fiancés assassinés. C'est à voir dimanche soir sur France 5 à 21h dans Le Monde en Face. C'est présenté par Mélanie Taravant. Et puis la seconde enquête, ce sera Malte au nom de Daphné. Ce sera diffusé à la suite. Dans les deux cas, le sujet est le même, le contexte est le même, il est dramatique. Ce sont des journalistes assassinés dans l'exercice de leur fonction. La rédac chef de Forbidden Story qui produit ces docs, c'est Sandrine Rigaud, elle est avec nous. Le réalisateur du premier doc en Slovaquie, c'est Camille Le Pomelec. Je raconte tout ça au cas où vous preniez l'émission en cours de route et vous avez bien raison. Camille Le Pomelec, l'assassinat de Jan Kuciak va déstabiliser le pouvoir slovaque. Le pays va connaître les plus grandes manifestations qu'il a connues, dites-vous, depuis la fin du régime soviétique.
Oui, c'est ça. Il y avait 50 000 personnes à Bratislava, la capitale. C'est une petite ville. C'est un petit pays de 5 millions d'habitants, en fait, et qui n'avait jamais connu autant de manifestations depuis 1980.
Et ça va déclencher une fronde plus globale au niveau de l'État.
C'est ça, le Premier ministre qui était déjà attaqué pour sa gestion de la corruption démissionne et en fait il nomme un de ses dauphins et quelques temps plus tard, ou deux ans plus tard, en fait il y a des nouvelles élections et là il y a à la présidence une femme qui est nommée pour la première fois, qui est une avocate, qui est une militante de l'écologie. Donc c'est vrai que ce meurtre a complètement chamboulé le pays.
Alors avant sa démission, il va un peu paniquer, le Premier ministre s'appelle Robert Fico, ça s'écrit d'une manière, il faut prononcer d'une autre, il convoque la presse pour une conférence et là c'est une scène totalement surréaliste. Il y a une table. Et sur cette table, des liasses de billets par centaines qui sont posées là, extraits de votre documentaire que nous avons une nouvelle fois doublé.
Voici 1 million d'euros. Cette récompense ira à toute personne qui trouvera le courage de se présenter à la police avec des informations utiles. Mesdames et messieurs, soyons clairs, ce million d'euros vient d'un coffre-fort du ministère des Finances.
On a l'impression qu'on est dans Tintin ou alors dans l'Europe avant la chute du communisme. Qui est ce Roberto Fizzo? Comment vous pourriez le décrire?
C'est un petit homme qui, en fait, a pris la tête de la gauche en Slovaquie et, grâce à l'ancien parti communiste, il a pris le pouvoir justement sur une promesse de lutte contre la corruption face à une droite qui était un peu... qui était empêtré dans plein d'affaires et en fait on se rend compte qu'il était lié à plein d'oligarques, enfin un certain nombre d'oligarques, et que lui-même avait sous son régime, il y avait énormément de corruption qui se passait.
Sandrine Rigaud, dans quelle mesure il se passe des choses politiquement après des assassinats et après des reportages?
Alors là on l'a vu avec l'assassinat de Jan Kuciak, il y a une véritable révolution qui se met en place dans le pays. Après l'assassinat de Daphné, il a fallu du temps,
mais
une mobilisation à Malte, exactement. Et c'est le deuxième documentaire qui sera diffusé dimanche, réalisé par Jules Giroda. Après l'assassinat de Daphné, il y a des journalistes qui reprennent son enquête, qui pointent des hommes d'affaires, qui pointent des proches du Premier ministre. Et tout ça va aboutir, pareil, à une mobilisation populaire énorme, à une enquête judiciaire, à des arrestations. Et le Premier ministre, Joseph Muscat, dont des proches... dont le nom de certains proches sont liés à l'enquête, va être obligé de démissionner. Mais ça arrive plus de 3 ans après l'assassinat de Daphné.
Camille Le Pomellec, comment vous avez travaillé sur place? Vous aviez un fixeur, vous êtes passé par les collègues de Yann, comment ça s'est passé?
Les deux, c'était un peu compliqué parce que c'était en contexte de Covid, donc on s'est faufilé à plusieurs moments quand c'était possible, et donc j'ai travaillé avec une fixeuse qui collabore régulièrement avec le New York Times sur place, qui était vraiment...
Mais journalistiquement, est-ce que vous vous sentiez libre?
Oui, c'est l'Europe. Donc on était libre. Après, ce qui était compliqué, c'était de faire parler des gens qui ne voulaient pas parler. Mais voilà.
Moment émouvant dans votre documentaire, vous avez pu rencontrer la famille de Jan Kuciak, notamment son frère et son père. Extrait.
Jan était quelqu'un de très honnête, de très consciencieux, presque trop pour moi. Je lisais ses articles, mais toutes ces histoires de corruption, c'est sans fin. Tu écris un bel article, et ensuite rien ne se passe.
J'ai toujours voté pour Robert Fizzo, donc on était rarement d'accord. Nous avions des discussions sans fin. Il n'arrêtait pas d'argumenter, et à la fin, je préférais m'en aller.
Les personnes de ta génération sont habituées au régime communiste, à ce qu'un homme politique pique dans la caisse et redistribue à ses proches.
C'est vrai, on a découvert la démocratie que tardivement.
C'est assez incroyable, il devait lutter contre les a priori de sa propre famille.
C'est ça que j'ai trouvé fascinant, il venait d'un petit village, d'un milieu extrêmement modeste, Jan Kuciak, et donc... Par lui-même, enfin, il a failli devenir prêtre, quoi. C'était vraiment, il venait de ce milieu très rural, conservateur, et puis il est devenu le journaliste d'investigation à 26 ans le plus en vue de Slovaquie, et qui n'hésitait pas, justement, peut-être avec ce côté un peu tête brûlée, entre guillemets, à s'attaquer aux plus puissants et aux plus dangereux.
En parlant de danger, Sandrine Rigaud, qu'est-ce qui arrive en premier chez vous à Forbidden Story? C'est vous qui recensez des histoires comme celle de Yann et vous cherchez ensuite un réalisateur pour l'écrire à la tournée, ou inversement, ce sont des réalisateurs qui viennent et qui vous apportent les histoires?
Ça dépend. En fait, il faut savoir qu'à Forbidden Stories, les enquêtes commencent souvent de façon collaborative. Donc, notre but, c'est de rassembler des journalistes dans le monde entier. On travaille avec les journalistes du Monde, du Guardian, du Washington Post, des journalistes au Liban, des journalistes en Israël. Et plus on est nombreux à travailler sur la mort d'un journaliste et sur les enquêtes qu'il menait, plus cela apporte de la protection. C'est plus simple de travailler à 45 sur une enquête dangereuse que de travailler tout seul. Et plus aussi, ça a de l'impact. Donc, quand on a publié le projet Daphné, avant que ce soit un film, c'était une enquête collaborative qui a été diffusée en même temps dans des journaux, dans plusieurs pays du monde.
Vous avez répondu en partie à ma question. C'est d'abord une enquête collaborative de presse écrite, de sites, et ensuite ça devient un documentaire filmé.
Ça peut être, on peut avoir des documentaires qui sont diffusés au moment de l'enquête collaborative, mais le principe, c'est de publier ou de diffuser tous en même temps l'enquête pour avoir un plus fort impact. C'est ce qui s'est passé pour les Panama Papers, et c'est ce qu'on fait à Forbidden Stories, pour effectivement qu'on puisse entendre parler de ces histoires de journalistes qu'on souhaite censurer au départ.
Est-ce qu'on peut savoir sur quoi vous travaillez actuellement, ou au contraire, par définition, ces projets-là doivent rester secrets jusqu'à la dernière limite ?
Oui, exactement. Par définition, ce sont des sujets extrêmement dangereux. La plupart du temps, quand on enquête sur le meurtre d'un journaliste, sur des histoires qu'il n'a pas pu publier, le meurtrier est toujours dans la nature. Il est toujours libre. Donc, par définition, il faut être extrêmement prudent. Donc, nous ne communiquons jamais avant la publication sur les enquêtes que nous menons.
Slovaquie, les fiancés assassinés, et ensuite Malte au nom de Daphné. Ces deux documentaires sont à voir dimanche soir sur France 5 à 21h dans Le Monde en Face. Émission présentée par Mélanie Taravant. Merci beaucoup Camille Le Pomelec. Merci beaucoup Sandrine Rigaud d'avoir été tous les deux avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, tout à fait autre chose, nous serons avec la reine de la maroufle. C'est elle-même qui le dit, c'est l'animatrice Valérie Damido. On a tous connu dans l'émission de M6 Déco ou DNCO. Comme plein d'autres, elle sort un magazine papier, nouveau magazine. Il s'appelle Dami Déco et on en parle dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Valérie Damido.
Bonjour Philippe Vandel.
Ravi de vous retrouver, l'une des animatrices télé préférées des Français. Jack Lang est vu comme ministre de la Culture à vous. Vous êtes toujours perçue comme la reine de la déco. Même si vous avez quitté M6 qui a arrêté votre émission, vous êtes passée sur le groupe TF1. Mais sans émission de déco, on va en reparler. Mais d'abord, on va rester dans ce sujet, la déco, car vous lancez votre magazine papier, magazine qui est imprimé sur du papier et non pas un magazine consacré au papier. Il s'appelle Dami Déco, c'est sous-titré le magazine déco malin de Valérie Damido. Il y a des magazines déco qui sont pas malins ?
Je pense qu'il y a... Non, mais il faut bien trouver un slogan. C'est voilà. Pas à toi que je vais l'apprendre. Le truc du magazine, c'est qu'on a essayé, en tout cas quand ReWorld m'a contacté pour faire ce magazine.
ReWorld Media, c'est le groupe de presse.
Exactement.
Qui vous a appelé.
Je sais, il y a beaucoup de magazines avec des célébrités.
Bien sûr.
Là, l'idée, c'était plutôt de faire un magazine où on allait retrouver des adresses pas chères, où on allait trouver des astuces et des do-it-yourself, enfin des fais-toi tout même.
Des tutos.
Voilà, des tutos. Pas cher, et essayer d'aborder la déco, c'est pas nouveau, hein, mais d'aborder la déco sur récupérons déjà ce qu'on a, recustomisons ce qu'on a et apprenons à acheter dans les vides-greniers. Quoi.
Alors là, je pensais pas retrouver ça un jour. Quand j'étais tout petit, il y avait des gens dans leur jardin, comme ils n'avaient pas de puits, à la mode c'était les puits, ils empilaient 4 pneus, ils en faisaient un puits. Et là, avec un vieux pneu, vous en faites une table basse. Mais je dis, mais c'est pas possible, et la pollution. Et d'abord, qui a un vieux pneu chez soi ?
Eh bien, qui a un vieux pneu chez soi ?
Chez lui, pardon.
Chez lui, pas mal de gens, déjà. T'as toujours une vieille connerie à trouver. Là, en l'occurrence, tu prends le pneu, mais on a fait, tu vois, des salons de jardin en palette, on a fait des jardinières en palette.
Ça, j'avais déjà vu. Moi, je prends toujours le moment extrême. Le vieux pneu perce. Vous n'avez pas un vieux pneu chez vous ?
Non, j'ai pas un vieux pneu chez moi, mais je connais pas mal de gens, des potes à moi qui en ont dans leur jardin aussi. Oui.
Alors, vous l'avez dit, c'est édité par ReWorld Media. C'est pas la première fois qu'on vous propose de participer à un magazine. Pourquoi cette fois, vous avez dit oui ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ?
L'idée que c'était justement pas que moi, on va prendre le nom Valérie Damido et l'idée que j'avais fait 10 ans de déco. Je suis hyper participative, c'est-à-dire que vraiment de A à Z, je regarde tout ce qu'ils proposent. On se connaît un petit peu. Donc tu sais que c'est pas, quand je dis je suis hyper participative, c'est-à-dire que ça va même jusqu'à, j'aime pas trop quand il y a des, on parle des annonceurs de pub, s'il y a des trucs qui me contrarient, ou mais dans les articles.
Bonne question, il y a des publicités que vous avez récusées.
Je ne dirais pas lesquelles. Parce que
non, dites pas lesquelles, mais dites le produit.
Non plus. Mais oui, des gens qui ne m'intéressaient pas. Bref, j'essaye d'être vraiment toujours en accord avec ce que je suis moi dans la vie.
Et le groupe de presse a dit d'accord. C'est assez rare pour le signal, et c'est rare qu'un groupe de presse refuse de la publicité, surtout par les temps qui courent.
Ouais, mais bon, il y a un moment donné, il faut être en accord avec ce que t'es. Alors, je te dis pas que je vais avoir la main mise sur toutes les publicités, parce que sinon, on ferait des publicités que pour les campagnes anti-destruction de la nature et pour la protection animale, donc ça nous ferait pas grand-chose dans le magazine. Mais non, et en tout cas, quand je propose des idées, ils sont toujours d'accord. Quand je leur dis, l'équipe de rédaction est hyper sympa, je m'entends vraiment bien avec toute l'équipe, et on est vraiment, c'est un travail d'équipe. Pour le coup, c'est pas juste on va mettre ton nom et ta tronche sur un magazine, on est vraiment dans un truc, construisons le magazine ensemble.
Alors on retrouve des procédés qui ont fait le succès de votre émission. Il y a les photos avant-après, par exemple. Là, c'est soit un objet customisé, soit carrément une maison,
une pièce,
un appartement. Et là, vous le faites pour de vrai.
Ouais. Alors, c'est pas moi qui le fais, hein, sinon, cher ami, nous ne serions pas là. Je serais encore en train de travailler. Mais, Ouais, je trouve que c'est important. Les gens, ils aiment bien. Quand tu leur dis, si on met de la peinture kaki avec un coussin marron, ça va être super beau, ils ont envie de le voir. Donc, bah, regarde, ça, c'est ta maison avant, ça, c'est ta maison après.
Ah, alors, puisque vous parlez de ça, très intéressant. J'aime bien votre manière d'envisager la déco. Par exemple, je vous donne trois couleurs que les gens n'aiment pas spécialement. En tout cas, moi, quand j'étais petit, je détestais ces couleurs. Cacadois, beige, marron. C'est très malin. Vous les avez rebaptisés. Ce sont les mêmes couleurs, mais elles ont un autre nom. Cacadois, beige, marron, ça devient kaki, argile et chocolat.
Bah, en même temps, argile...
Ça change rien et c'est ça qui change tout.
Peut-être. En même temps, moi, j'aime pas, tu vois, par exemple, j'aime pas le marron. Bon. Mais j'explique très bien aux gens que...
Que chocolat, c'est beau.
Chocolat, c'est mieux. Puis surtout par touche. T'es pas obligé de te faire toute une pièce en chocolat, tu vois.
Ça, on a bien compris.
Tout est dans le dosage, cher ami.
On comprend aussi que vous vous amusez. Le sommaire est à base de rimes en haut. Alors, c'est construit comme ça. Le sommaire, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le sommaire, il y a une double page. Ça s'appelle Atmo, Transfo, Leçon de Séno, Tuto, Par ici le tuyau, C'est pas du pipeau, Négo, Défi perso, T'as le loup coco, Eldorado.
Qui rime avec Damido.
Vous aviez pris quoi pour faire ce sommaire?
Bon, c'est l'équipe qui l'a fait avec. On l'a tous fait ensemble. Et puis, comme c'est ma fille qui illustrait toutes les rubriques, ouais. On trouvait ça rigolo que ça rime avec Damido, avec Déco.
Oui, alors on a dit, vous êtes en photo un petit peu partout. Vous êtes sur la couverture, vous êtes dans les pages.
Ça, tu vois, par exemple, on en a discuté, la couverture, ça devait pas être ça. La première couverture, c'était pas du tout ça.
Alors, je vais préciser la couverture. On voit Valérie Damido en salopette bleue qui est assise en tailleur au milieu d'un fatras assez bien organisé. Là, on se demande si c'est vous parce que le titre est écrit avant-après, ce qui est assez étrange.
C'est, ouais, ça peut être
c'est
moi.
Très étrange ce titre. Ça devait être quoi? Ça devait pas être vous en couverture?
Alors, ça devait
c'est
être
impossible.
Moi.
Alors, c'est impossible.
Ça devait être moi, mais incrusté sur, comme on faisait les cuisines, incrusté sur une cuisine. Et moi, j'ai dit. Les gars, c'est le premier numéro. Je suis désolée, hein, mais on va faire une photo plus rigolote où on montre que je suis intégrée dans le truc. Donc, ils auraient pu me dire, t'es gentil, Damido, ferme-la, puis tu vas bien faire ce qu'on te dit. Et non, on en a discuté, ils ont dit oui, c'est une bonne idée. Et du coup, on va refaire pareil pour la deuxième couve. On va essayer toujours de mettre en situation. Moi, j'ai horreur de ça, les couves de magazines où... C'est un espèce de décor comme ça. Je trouve que c'est mieux qu'on fasse une photo concept.
Mais je vais paraphraser Pierre Desproges. Rassurez-vous, il n'y a pas que des photos de Valérie Damido. Il y a également des dessins de Valérie Damido.
Non, de Roxane, ma fille.
Oui, mais des dessins de vous. C'est vous qui êtes représentée.
Ah bah oui, avec mon chien et tout. Bah oui, mais c'est Roxane qui dessine. Si c'était moi qui avais fait les illustrations, mon Dieu, quelle horreur.
Ça fait partie du cahier des charges qu'on vous voit énormément. Je vous le reproche pas.
Ah, mais c'est pas le cahier des charges. Là, pour le coup... C'est un dessin, tu vois, c'était une caricature. Mais c'est plus sympa, ça prouve que c'est pas juste, effectivement, mon nom qui est placardé sur un truc. Ça prouve que j'ai vraiment travaillé sur les rubriques.
Alors, elle a vraiment travaillé sur les rubriques. Il y a même des tutos, il y a même un site internet. On va entendre tout ça, c'est la deuxième partie de l'interview de Valérie Damido. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Valérie Damido, la reine de la déco, elle sort son magazine Déco Malin. C'est écrit sur la couverture, c'est le numéro 1, c'est un trimestriel. Il s'appelle Dami Déco. Vous écrivez le sommaire vous-même, vous saluez bonjour les maroufleurs, comme ça vous coupez l'herbe sous le pied de tous les haters qui disent ah, elle fait que de la maroufle. Bah oui, comme ça vous assumez, on peut plus rien vous dire. Dans le cœur du magazine, il y a des tutos, il y a des pages explicatives pour savoir comment s'y prendre. Par exemple, pour faire soi-même un miroir soleil, rappelez ou dites pour les plus jeunes ce qu'était un miroir soleil.
Bah c'est le gros truc qui était à la mode dans les années 70, qui est ressorti là il y a 3-4 ans. Tout le monde en a réédité, il y en a dans tous les grands magasins. C'est un miroir avec des picots là, comme ça.
Hop. Des petits picots qui partent partout. Vous savez qu'on est à la radio, donc il faut décrire avec des mots.
Ah mais oui, c'est vrai que nous sommes à la radio même si nous sommes
filmés. Mais on est filmés et vous pouvez voir Valérie Damido sur europe1.fr. Alors là également, vous recyclez. Les photos sont tirées de votre site internet damideco.com. Et alors, on n'est pas dans le tuto classique. Vous êtes avec votre complice Phil. Écoutez le début du tuto.
Bonjour. Ouais, on vous retrouve, on est content quand on vous retrouve. Voilà. Yeah. Aujourd'hui, on va vous faire rêver, on va mettre du soleil dans vos vies.
Oh. Avec toi, je marouflerai.
Oui.
Des pipi-pic à brochette.
Avec des merguez et du poulet. Et un peu de poivron d'oignon aussi.
Oh oui.
Aujourd'hui, on va vous apprendre à fabriquer ce fameux miroir soleil.
Alors, je précise que vous n'avez pas fumé les herbes, c'est non. Que c'est réellement fait avec des pics à brochettes.
Exactement, mais ça, c'est pas sur le site d'Amideco, tu sais, c'est sur ma chaîne YouTube.
Oui, voilà.
Mais c'est des captures d'écran des tutos de ma chaîne.
C'est aussi sur le site d'Amideco parce que c'est là où je l'ai trouvé. C'est là où je l'ai trouvé. Alors, on se dit, c'est la bonne rigolade. Si on rate un miroir, c'est pas très très grave, mais si on rate votre tuto plomberie, c'est aussi déconnant quand vous faites de la plomberie.
Mais oui, c'est le principe du truc. On a toujours fait ça. Nous, on apprend en s'amusant, en chantant. Quand c'est dur, on le dit.
Ouais.
Là, en l'occurrence, c'est facile. Hein. Et ça va. C'est...
Alors là, il y a une double page pour faire un miroir. Mais là, quand même, j'ai vu des trucs. Il faut être quand même très, très fort. Il y a une petite notice pour poser une étagère. Alors, poser une étagère, c'est pas facile. Il y a seulement une seule photo. L'explication, il y a 7 phrases. Je vais les lire. C'est très fort. Mesurer l'emplacement que devra occuper l'étagère, reporter ses côtes sur la planche à découper, découper la tablette à l'aide d'une scie sauteuse, placer les bords et dépoussiérer là, repérer les emplacements des équerres de fixation sous la plaque, visser les cornières à l'étagère, positionner l'ensemble à l'endroit souhaité à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un laser, tracer des repères au crayon pour les trous, percer sur ses points, à l'aide d'un marteau, insérer une cheville dans chacun des orifices, visser l'étagère au mur en utilisant une perceuse visseuse. Si un gars qui arrive à poser une étagère rien qu'avec ça, c'est que c'est un professionnel.
Non, c'est juste que toi, tu ne sais absolument... Pardon, vous ne savez pas, cher Philippe Vandel, bricoler, parce que c'est la base. Hein. Poser une étagère, je t'assure, c'est vraiment la base.
Non, c'est
si,
trop...
Si, mais
d'accord.
C'est super
okay,
simple.
Ok, c'est la base, j'ai rien dit, vous avez raison, c'est la base. Comment ça se passe? Il y a quelque chose d'assez étonnant. Ah non, j'ai oublié d'en parler. On vous voit chez vous. Là, ce qui est assez impressionnant, c'est que tout d'un coup, on voit vraiment les gens faire, puisque c'est un magazine de déco, et tout le monde se dit, mais comment c'est chez Valérie D'Amido? Et là, il y a 8 pages, on vous voit chez vous. Ouais. Pourquoi avoir accepté ceci et ces images?
C'est même moi qui l'ai proposé, parce que j'ai dit à l'équipe, j'ai dit, c'est le premier numéro de D'Amideco, on est censé quand même apprendre aux gens à décorer. J'aimerais qu'ils connaissent mon univers et qu'ils sachent un peu comment c'est chez moi, parce que c'est sympa de dire, aller chiner, aller brocanter, aller faire ci, aller faire ça. Bah, on va montrer comment c'est chez moi. D'ailleurs, il y a une seule photo de moi, après c'est que ma maison.
Il y a quand même des photos de la chambre à coucher.
Oui,
ouais.
Exactement.
Alors, je précise, sur la tête de lit, il y a 2 inscriptions. D'un côté, il y a love, de l'autre, il y a sexe.
Ouais.
Vous avez décidé de déménager.
Ouais.
C'est l'ancienne ou la nouvelle maison qu'on voit dans
le
magazine?
Non, c'est ma maison de maintenant. Je vais déménager dès que j'aurai trouvé ma nouvelle maison.
D'accord. Donc, comme ça, on pourra refaire des photos dans la nouvelle
Exactement.
Maison.
Exactement.
Ce premier numéro est très marketing. Je n'avais encore jamais vu ça. En avant-dernière page, il y a un questionnaire, ce qu'on appelle le vu-lu. Mmh. On demande aux lecteurs ce qu'ils ont vu comme article. Et parmi les articles qu'ils ont lus, parce qu'on peut voir un article et tourner la page, ce qu'ils ont lu, pour quelle raison il y a ce test à la fin du magazine?
Parce que moi, j'aime bien quand on demande leur avis aux gens. J'aime bien, je sais pas, c'est la moindre des choses. Ils ont pris le temps d'acheter le magazine, ils l'ont lu. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'ils ont aimé. Donc, c'est marqué, hein, votre avis nous intéresse, oui. Et c'est vrai, c'est réel.
Ça vient de vous? Je pensais que ça venait de Reworld
non,
Media.
Non, de toute l'équipe, on s'est dit, mais ça serait marrant de savoir ce que les gens pense du truc.
Vous avez déjà des premiers éléments de réponse ou pas encore?
Pas encore, mais on va en avoir, je pense.
Il y a une question étonnante. Que pensez-vous de la place de Valérie D'Amido dans le magazine? 1. Elle est au bon niveau. 2. Elle n'est pas assez présente. 3. Elle est trop présente.
Bah oui.
S'il y a davantage de 3.
Eh ben, on se cassera. Tu sais, moi, je suis pas très... j'ai pas trop d'égo là-dessus. Hein. Vraiment, pour le coup...
Combien de numéros par an?
4
numéros.
Ouais.
Vous avez signé pour combien de temps?
1 an. Pour 4 numéros. Et après,
et
on
si
verra.
Ça marche,
on continuera.
On verra bien. Vous êtes intéressé aux ventes?
Ah non, je crois pas, non. Alors pour le coup, non, je suis payée comme directrice de rédaction, c'est un grand mot, mais pour le travail que je fais, pour les trucs, mais non.
Y a beaucoup de magazines qui sont articulés d'une personnalité. Il y a S comme Sophie, avec Sophie d'avant, c'est chez CMI. Faustine Bollard, entre nous, chez Reworld. Dr Good, de Michel Simès, encore chez Reworld. Stéphane Plaza, il a son magazine chez Prisma. Stéphane Bern, chez Reworld, lui aussi. Laurent Mariotte, les petites plates de Laurent Mariotte, c'est Unimédia. Au cœur des régions, de Jean-Pierre Pernaut, c'est chez Burda Bleu. Est-ce que vous les avez contactés pour savoir comment ça se passait?
Pas du tout. Mais alors, pas du tout.
Elle est en train de se dire, j'aurais peut-être dû les appeler.
Non, même pas. Franchement, j'ai jamais fait de toute ma vie, à chaque fois que j'ai pris une décision, qu'on m'a proposé un truc que je trouvais sympa, moi je fonce parce que c'est comme ça, je suis spontanée, mais j'ai jamais demandé à personne.
Je voulais parler de télévision, mais on n'a plus le temps. Où en êtes-vous de votre One Woman Show? Est-ce qu'il va arriver? Est-ce que vous allez arriver sur scène en 2022?
Oui, je démarre le 29 janvier, une tournée, et ça démarre à Auray. On fait une quarantaine de dates jusqu'en juin. Et ça s'appelle Valérie D'Amido s'expose et ça démarre effectivement fin janvier.
Ça va parler de télé?
Très très peu, il y a vraiment très peu, à part de déco pour expliquer, on démarre là-dessus d'ailleurs pour dire, bah, de toute façon vous êtes là parce que grâce à moi vous aimez la déco. Ça parle de moi, petite, des années 70, de plein de trucs.
Voilà, parce que vous avez dit à Télémagazine cette semaine, vous avez dit j'ai 56 balais, je joue dans une catégorie compliquée à la télé, et je me dis c'est-à-dire.
Bah parce que quand on a 56 balais, c'est compliqué la télé, enfin, c'est... Je pense que la télévision, c'est un métier où, à un moment donné, on te propose des trucs différents selon les âges. Et je pense que 56 ans, c'est un âge, pour les filles, que compliqué. Sincèrement, je pense.
Valérie Damidot, merci beaucoup. Je rappelle ce magazine papier d'Ami Déco. C'est sous-titré le magazine Déco Malin de Valérie Damidot. Et c'est 4,95 seulement. J'avais oublié de le dire. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct.
Merci à vous.
Culture Média continue après les infos de 10h. On va retrouver les télescopages de Bruno Donnet ce matin. Il sera question du sondage spectaculaire qui donne Valérie Pécresse élue face à Emmanuel Macron. Mais ce qui intéresse Bruno Donnet, évidemment, c'est la manière dont ce sondage a été commenté hier à la télévision. Notre invitée, c'est Clara Luciani après son album Cœur. Elle se lance en 2022 dans une tournée des Zéniths et autres salles géantes. La précédente tournée à l'automne, tout était complet.
C'était magnifique.
Et ben voilà, vous y étiez ?
Non seulement j'y suis, mais j'aime tellement Clara que je trouve que voilà, elle devrait faire des tournées toute l'année, tout le temps, toute la vie.
Vous lui direz en sortant de ce studio. Et puis Nicolas Carreau va nous parler de Madame Bovary. Il y a une réécriture, une relecture de Madame Bovary, le chef-d'œuvre. Et puis l'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebret en fin d'émission. À tout de suite sur Europe 1.